L'un des tout derniers dossiers, c'est l'envers de la dette, qui vous montre comment la dette de l'Afrique est une immense escroquerie. Et puis nous avons organisé ensemble un contre-sommet au moment du sommet France-Afrique avec la plus grande manifestation panafricaine à Paris depuis presque 40 ans, des Africains de toutes origines qui ont tenu à manifester leur désaccord. En 20 minutes, je vais essayer de vous résumer ce que c'est à la fois que la France-Afrique et comment tout ça se mondialise et pourquoi le G8 qui se passe à côté nous concerne tout à fait. La France-Afrique, c'est ce qui s'est installé en 1960, quand De Gaulle a été obligé d'accorder l'indépendance aux pays d'Afrique au sud du Sahara, tout en disant à son bras droit Jacques Faucard de faire exactement l'inverse. Donc De Gaulle décrète une nouvelle légalité internationale, et en même temps, il charge Faucard, qui était le patron des services secrets et de tout un réseau, comme on dit, de mettre en place le contraire. Et donc, la France-Afrique, c'est déjà l'instauration à l'échelle de tout un continent d'un double langage extraordinaire. D'un côté, vous avez la France, vous avez Chirac, qui est la colonne vertébrale de la France-Afrique depuis 30 ans, qui vous dit « nous sommes les meilleurs amis de l'Afrique, nous sommes la patrie des droits de l'homme, nous allons aider l'Afrique dans la lutte contre le sida, etc. » Et de l'autre, en fait, ont été mis en place un tas de mécanismes de pillage de l'Afrique, de soutien à des dictatures, d'installation de régimes policiers, que je ne peux pas raconter ici, mais il faut simplement savoir que c'est ce qui est à l'origine de l'assassinat des premiers élus des anciennes colonies, par exemple Sylvanus Olympio au Togo, remplacé et tué d'ailleurs par un sergent-chef qui est toujours au pouvoir 40 ans plus tard. C'est eux qui ont assassiné Sankara. Chaque fois que émergeait une volonté de libération d'indépendance, chaque fois cette France-Afrique et ses réseaux ont contribué à leur élimination. Et pour ceux qui ont suivi un peu cette actualité, vous savez que le pire des crimes de la France-Afrique au XXe siècle a été de soutenir pendant plus de 3 mois ceux qui commettaient le génocide d'un million de personnes au Rwanda. Ils l'ont soutenu diplomatiquement, militairement et financièrement, même bien au-delà du génocide. Donc, je n'ai pas le temps ici de résumer tous les crimes mis en place par cette gestion parallèle. Je voudrais simplement en citer encore un ou deux ou trois pour nous introduire à la mondialisation de ce phénomène. Parmi les crimes les plus récents, après la poussée démocratique qui a eu lieu au moment de la chute du mur de Berlin en 1990, chaque fois que les peuples ont voulu pousser à ce qu'il y ait des élections indépendantes pour chasser la dictature, les réseaux de la France-Afrique, les réseaux Pasqua, des gens venus de la mairie de Paris, où vous savez qu'on est spécialisé en fraude électorale, sont arrivés pour faire en sorte que là où les gens veillaient jour et nuit autour des urnes pour ne pas qu'on sabote les élections, ont voté à 80% pour changer la dictature, et à la sortie, grâce à une quinzaine de mécanismes conjoints de fraude électorale, le dictateur avait 80% des voix ou 52% s'il était modeste. Ce qui fait que dans 50 élections majeures dans ces pays d'Afrique au sud du Sahara, chaque fois, on a fait encore pire que la dictature, c'est donner un vernis de légitimité démocratique à la dictature. Mengar Les Gignon-Rongar, qui avait vécu ça de très près, pourra vous en rendre compte. Autre exemple de ces crimes, je vais être le plus simple possible. Prenez le Congo-Brazzaville. Le Congo-Brazzaville est un pays très riche en pétrole, un pays assez peuplé, 3 millions d'habitants, qui est en fait étroitement contrôlé par les services secrets français depuis plus de 30 ans. Et leur homme, c'est Denis Sassou Nguesso. En 1991, il y a eu un mouvement populaire démocratique très fort pour chasser Denis Sassou Nguesso. Mais ce monsieur, il était très pratique, puisqu'il ne demandait pour son pays que 17% de l'argent du pétrole. Et encore du pétrole déclaré, parce qu'il est complice du fait qu'une bonne partie du pétrole n'est pas déclarée. Et donc, Ce monsieur, renversé largement par les électeurs congolais, la France et ses réseaux n'ont eu de cesse que de le remettre au pouvoir. Et ils ont fini, après l'avoir réarmé, par déclencher une guerre civile où ont participé les gens les plus incroyables, y compris la garde présidentielle de Mobutu, y compris ceux qui avaient commis le génocide au Rwanda, y compris toutes sortes de mercenaires français et africains, pour arriver à remettre en place ce pouvoir qui était si pratique en matière d'exploitation pétrolière. Ce pouvoir, ensuite, a commis une série de crimes contre l'humanité, assassiné sur des critères ethniques 100 000 personnes, violé des dizaines de milliers de personnes, et tout cela en 1999, alors que les journaux ne vous parlaient que des crimes commis en Tchétchénie, au Kosovo et à Timor-Est. Et pendant cette même période, eh bien, on tuait beaucoup plus de monde au Congo-Brazzaville sans qu'on vous en parle. Ce qu'il faut comprendre pour commencer à saisir ces mécanismes de France-Afrique et de Mafia-Afrique, c'est que d'un côté, vous avez un plus des réserves pétrolières importantes qu'on est en train de vider, et à partir de là, on se met à vous prêter sur le pétrole futur. On dit, mais vous, aux tyrans et aux amis d'elfes, dont vous voyez aujourd'hui qu'ils se sont largement servis, comme il n'y a pas assez d'argent, on va prêter sur le pétrole à venir. On prête sur le pétrole de 2 ans, 3 ans, 5 ans, et puis on fait passer ça par 10 ou 15 paradis fiscaux, et chaque fois, il y en a qui prélèvent une commission. Et donc, la dette du Congo-Brazzaville, elle mousse comme eux en neige. Au bout de ces opérations d'escroquerie, elle se retrouve égale à 3 fois la production annuelle de ce pays. Donc vous avez quelque chose de formidable. Vous avez un plus qui est du pétrole, et à la fin vous avez 3 moins, ce pays qui est le plus endetté du monde. Et avec l'argent du pétrole, on achète des armes pour financer les deux côtés de la guerre civile, ce qui fait que ce pays s'est autodétruit, entre guillemets. Eh bien, nous avons montré que c'était les gens d'Elfes qui étaient derrière tout ça. Ce sont eux qui vendent le pétrole, qui le trafiquent, ce sont eux qui gèrent en direct le fait d'augmenter la dette, et ce sont eux aussi qui achètent les armes. Donc la destruction, elle est entre les mains d'un petit groupe de gens qui sont évidemment très proches du pouvoir français. En Angola, on passe là au stade de la mafia-afrique. Je n'ai pas le temps de trop développer, mais dans ce pays qui est l'un des plus riches de la planète, une sorte d'Irak ou de Koweït du XXIe siècle en Afrique, eh bien, avec des gens comme Falcon, Guédamac, dont on a entendu parler à l'occasion de l'Angola Gate, se sont rejoints autour des puits de pétrole angolais, des immenses gisements de pétrole, à la fois les États-Unis, les compagnies américaines, George Bush, la compagnie française Total Elfina et Jacques Chirac, et aussi Poutine et tout l'ensemble des gens qui, au niveau de la Russie, ont racheté en 1990 l'économie russe en ayant d'abord détourné 500 milliards de dollars. Une histoire tout à fait incroyable. Ils ont vendu toutes les richesses russes pour rien, et avec cet argent, ils ont racheté la Russie, puis une partie de la Côte d'Azur, et maintenant, ils se sont mis également dans le pétrole africain. Je n'ai pas le temps non plus de développer cette affaire, mais le principal personnage derrière ces opérations de l'Angola Gate en Angola s'appelle Monsieur Kordokoski, et si vous avez peut-être lu les journaux ces derniers temps, vous vous apercevez que ce monsieur qui a aussi volé 10 milliards de dollars au FMI est devenu le premier pétrolier russe, la 3e compagnie pétrolière mondiale, et que quelque part, tout l'argent qu'il a détourné, c'est en quelque sorte le ticket d'entrée de la Russie dans le G8 parallèle. Autrement dit, ce que j'essaie de vous expliquer sans pouvoir trop détailler, c'est que derrière ces mécanismes de pétrole et de détournement, il y a constitution, via les paradis fiscaux, qui sont aujourd'hui plus d'une cinquantaine, de nappes financières d'argent sale qui permettent de mener des guerres civiles, de mener des coups d'État, de déstabiliser des gouvernements à travers toute l'Afrique. Et que quelque part, ce fonctionnement qui jusqu'à il y a quelques années était encore assez national, la France ayant sa France-Afrique, eh bien aujourd'hui, ce fonctionnement il est en train de se mondialiser parce que des accords se passent entre les mécanismes analogues de la France, des États-Unis, de la Grande-Bretagne, du Brésil, de la Russie, etc. Et l'ensemble de ces détournements qui ont lieu autour des affaires de pétrole et de trafic d'armes est en train de donner une puissance supplémentaire aux services secrets. Tous ces mécanismes sont issus de la guerre froide. Quand les États-Unis se sont lancés dans la guerre froide en 1945, le Congrès des États-Unis a refusé tout un tas d'opérations subversives et des services secrets. Et par conséquent, il a fallu les financer de manière occulte. C'est comme ça que les paradis fiscaux se sont développés à l'échelle de la planète. C'est comme ça qu'on a enrôlé en 1980 un Saoudien, Oussama Ben Laden, pour être dans ce cercle-là le financeur des guerres contre l'Union soviétique en Afghanistan. C'est comme ça qu'évidemment, étant au cœur du système, il le connaît si bien. Et c'est comme ça qu'avec la deuxième guerre froide contre le terrorisme, on nous promet de recommencer de manière encore plus ample les mécanismes de coup d'État et de soutien aux dictatures que nous avons connus en Afrique durant 40 ans. Merci.